Coup sûr dans le mid, présenté par Bene et compagnie. La collection complètement cornichon est arrivée. Découvrez Burger, le poulet bol et les bouchées de poulet cornichon. Ce serait cornichon de ne pas y goûter.
Coup sûr.
Attendez-vous que vous ayez tout sur table.
Dans le mid.
En vacances.
Ouais.
Radio.
Ouais, ouais.
Radio. X.
C'est Couture dans le mid, pas de couture, avec Louis Gauvin et Jordan Boivin, jusqu'à midi à Radio X. 88-670-9098, c'est le numéro pour nous rejoindre. Si vous avez des questions pour notre prochain invité, c'est toujours bien le fun de lui parler. Un habitué de la soirée d'habitude à Radio X, mais qui vient faire son tour le matin, Chris de Horus, qui est au bout du fil. Salut Chris, comment ça va?
Salut Louis, salut Jordan, ça va bien? Ben moi ça va super!
Yes sir, nous autres aussi on est numéro un, c'est tout le temps le fun quand on jase. As-tu un gros été avec tes pitous?
Écoute, j'ai un gros été avec mes pitous parce que effectivement on accueille encore parfois certains pitous de manière très ponctuelle. Mais surtout, ben, j'ai accueilli récemment un nouveau bébé dans la famille qui est venu s'agrandir, qui est un ancien loulou qui a été recueilli par la SPA de Lévis et que j'ai accueilli dans ma famille. Autant te dire que là, on a un été où j'ai accueilli 7 chiens maintenant et dans ma petite meute.
Ouais, 7 chiens, ça en fait pas mal. Quand ça se met à japper le matin, là, ça doit être un beau réveil.
Écoute, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens particulièrement. C'est le bien-être de mes voisins. Fait que je m'assure toujours qu'il n'y ait aucun jappement, ni le matin, ni le soir. Ils ont le droit quand même de se défouler un peu en milieu ou en fin de matinée, mais jamais très tôt le matin, ni très tard le soir.
Mais Chris, y a-t-il un effet d'enchaînement là-dedans, dans mesure de, mettons qu'il y en a un qui a un mauvais pli, ça arrive-tu des fois que la gang est influencée puis ils se mettent à avoir tout ce mauvais pli-là?
T'as tout compris, Jordan. Ça peut arriver parce que les chiens apprennent beaucoup par imitation. C'est qu'à partir du moment où un chien se met à avoir un comportement stimulant, qui vient stimuler parfois même certains comportements qui ont été plus ou moins, on va dire, atténués par l'apprentissage que les humains ont voulu lui faire faire. C'est-à-dire, par exemple, lui dire, moi, là, je veux pas que tu jappes, fait que je vais faire le nécessaire pour que tu ne jappes pas. Mais si à un moment donné, il arrive dans une gang de chiens, puis il n'y a plus son humain pour pouvoir qui convient lui redonner accès finalement à ce comportement qui est un comportement naturel. Oui, il peut y avoir un effet d'entraînement qui va faire que les chiens vont se remettre tous à japper. Et peut-être même certains chiens qui avaient l'habitude de ne plus japper à la maison pourraient se remettre à japper quand ils reviennent dans leur environnement, une fois qu'ils ont vécu avec une meute pendant plusieurs jours.
Ah, mais être capable de faire taire 7 chiens, je te lève mon chapeau, là, je suis même pas capable d'en garder 2 et arrêter de japper quand quelqu'un arrive à la maison. Fait que non, ça c'est très très fort.
Mais tu vois, je me permets juste pour pouvoir revenir sur le point que disait Jordan Danto, là. Écoute, une fois que tu as compris quel est le déclencheur, qui c'est qui jappe le premier en général et que tu travailles avec lui directement, en général, tu arrives à gérer la meute en totalité.
Toutes les autres arrêtent.
Exact.
Chris, hier, on a jasé. En fait, on a quelques petits sujets. Là, on va venir aux questions des auditeurs dans quelques instants. Hier, on a jasé avec Dr Myriam Charret, qui est une vétérinaire qui est sorti dans les médias pour dénoncer les incivilités du monde, comment le monde était complètement débile avec les vétérinaires. Elle s'est fait carrément menacer là, de violence physique si la cliente la revoyait, juste parce qu'elle a dit que ben il fallait donner des soins à son animal. Toi, est-ce que t'en vois des fois? T'es pas vraiment un vétérinaire, mais t'es quand même dans le domaine des animaux. C'est sûr que quand ça vient chercher les émotions du monde, des fois, ça doit péter aux frettes.
Écoute, j'ai eu plein d'occasions, malheureusement, de vivre des incivilités des personnes. Et puis là, ça va être l'occasion pour moi, justement, peut-être d'introduire une activité que l'on fait avec la SPA de Lévis, sur l'ensemble de l'été. C'est les activités au niveau des parcs à chiens. C'est-à-dire tous les samedis matins, d'ailleurs, j'y suis demain matin, tous les samedis matins et tous les samedis à 13h, vous avez un professionnel en comportement canin. En l'occurrence, ce sera moi demain, mais ça peut être l'un de mes collègues, qui sera au parc Saint-Romuald le matin et à Humano l'après-midi pour faire de l'éducation canine, mais pour faire aussi de l'éducation de civilité dans un environnement où les gens vont devoir se partager un lieu qui n'est pas le leur, mais où ils vont devoir accompagner leur chien et puis essayer de vivre de manière très harmonieuse. Et là, ça, c'est un endroit dans lequel nous, éducateurs, on a été amenés parfois à être, on va dire, mis à l'index, parce que malheureusement, il peut arriver des cas pour lesquels on peut être amené à refuser que quelqu'un rentre avec son chien dans un parc à chiens. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est un parc à chiens, si tu n'avais pas été là, il aurait eu accès au parc à chiens, il serait rentré. Ouais, mais effectivement, quand on est dans un environnement où on veut encadrer un minimum les interactions avec les chiens, où on veut encadrer un minimum les interactions entre les humains, il peut arriver parfois qu'effectivement, certaines personnes se montrent très agressives et décident effectivement de même prendre des fois à partie les autres participants, les autres visiteurs du parc canin. Mais dans la majorité des cas, ce qui est marrant, c'est que les gens, quand ils voient qu'effectivement une personne se comporte mal de manière incivilisée, il va se mettre tout seul, lui-même, de côté. C'est-à-dire qu'il va m'agresser possiblement, mais le monde va être capable de lui dire hey, wow, tu te comportes pas de même, là, comment tu parles à ce gars-là? Lui, il est juste là pour appliquer des règles. Fait qu'effectivement, malheureusement, on arrive, nous aussi, à avoir ce genre de situation-là, comme les vétérinaires. J'aurais tendance à dire, comme vous l'avez dit, hein, à partir du moment où on parle des animaux, on parle des émotions, à partir du moment où on met en cause éventuellement des soins qu'on doit donner à un chien, des comportements que l'on doit faire travailler au niveau de son chien, ça vient nous chercher nous-mêmes sur nos propres comportements à nous et nos propres failles au niveau comportemental. Fait que c'est pour ça que les gens, ça les fait réagir et surréagir parfois.
Ah, c'est plate de voir ça, puis tu sais, on le voit dans tous les domaines, là, le monde est à bout de nerfs, puis c'est ça.
Oh, oui, absolument.
Quand tu rajoutes un chien qu'on aime à tout ça, ça pète encore plus. Tu parlais de la SPA, puis ceux de Montréal, là, c'est pas Lévis, mais ont dénoncé qu'il y a beaucoup plus de saisies d'animaux que depuis les dernières années. En fait, souvent, il y a des gens qui veulent avoir des animaux, mais qui n'ont pas les moyens, ou que ce soit financier ou cognitif, là, de s'occuper de ces animaux-là. On peut penser là, au classique cliché de la femme à chat, là, où il y a 45 chats dans la maison. Mais on parle de des histoires là, où il y a 150 souris dans une même maison, puis comme des souris domestiques. Là. C'est juste que quand ça part en fou. Aussi des histoires de 121 chiens... enfermés, pas de bouffe, avec rien. T'sais, c'est des gens qui se ramassent avec beaucoup trop d'animaux. Pourquoi on voit ça? Puis, c'est quelque chose qu'on peut faire pour sensibiliser le monde à être plus près, peut-être, quand ils vont s'acheter un animal, adopter un animal, en fait.
Écoute, il y a deux cas, là, hein, effectivement. Il y a tout ce qui est en jeu, on va dire, en lien avec des personnes qui décident d'adopter des chiens, mais qui ont des problèmes, comme tu l'as dit, cognitifs, c'est-à-dire qui n'ont même plus la distinction que de se retrouver avec tant d'animaux. Ça va générer tant de responsabilités, et puis ça va nécessiter d'avoir un environnement et quelque chose qui a du monde. Donc, les personnes qui, au niveau cognitif, sont plus capables, justement, de faire cette distinction-là. La seule manière de les gérer, c'est effectivement d'avoir des contrôles autour d'eux, il existe au niveau du ministère, on parle souvent de la MAPAC, mais on parle aussi souvent d'intervenants au niveau municipal, qui sont amenés à venir de temps en temps, sous dénonciation parfois de la part d'un voisin, rencontrer ces personnes-là. Parce que c'est sûr que ce n'est pas elles qui vont se dénoncer naturellement pour se dire « Hey, j'ai 150 souris dans mon domicile. Est-ce que vous pensez que c'est correct ?» Malheureusement, c'est souvent de la dénonciation qui est faite, ou alors un constat qui a été fait par un professionnel dans le secteur animalier. Donc, ces personnes-là, effectivement, c'est compliqué de les sensibiliser, parce que si c'est un enjeu au niveau cognitif, à partir de là, si eux sont persuadés que ça fait partie de leur mission de vie de devoir recueillir, accueillir et sauver autant d'animaux, malheureusement, mis à part ne plus leur donner accès à pouvoir à prendre un animal, on ne peut pas faire grand-chose, j'aurais tendance à dire. Ou alors, il faudrait vraiment qu'eux-mêmes suivent un propre traitement de leur côté pour qu'on leur apprenne à gérer ce trouble. Après, il y a toutes les personnes qui sont de niveau inconsidéré, c'est-à-dire les personnes que moi, je parle d'irresponsables, c'est-à-dire ceux qui vont être amenés à adopter un chien, adopter un animal, un chat, ce que tu veux, mais qui le font juste égoïstement pour eux et qui n'ont jamais identifié les raisons ou les besoins nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de leur animal.
Ouais, tout se fait, Chris, sur un coup de tête. Là.
Exactement. En plein Jordan, c'est ça. C'est-à-dire, tout le monde va vouloir se dire « Oh, il est cute, regarde. Puis mon voisin, il en a un aussi. Puis, oh, ce serait le fun que je... » Bref, les pires raisons du monde, des personnes qui n'ont absolument pas identifié c'est quoi l'enjeu d'avoir un animal, qui n'ont pas été renseignées, donc qui font ce qu'on appelle une adoption irresponsable. A contrario, moi, je fais beaucoup de mobilisation justement sur les adoptions responsables. Et ça, effectivement, ça arrive très souvent aussi que pour des raisons de mauvais traitement, parce que les personnes n'ont juste pas considéré quelle était la mesure d'avoir un animal domestique chez soi et de répondre à ses besoins fondamentaux. Se sont retrouvés effectivement à être dénoncés, potentiellement à se faire saisir leur animal aussi. Fait que c'est ça, c'est les deux cas. Ou une inconscience par rapport à comment dire, le besoin de l'animal, ou tout simplement un problème cognitif, où là, malheureusement, c'est des fois, ça prend un traitement directement sur l'humain.
Puis, tu sais, gens de la SPA, exemple, qui vont débarquer pour venir voir ce qui se passe dans la résidence, on regarde le nombre de cas, je regardais Montréal, il y a tellement d'histoires depuis le déménagement du 1er juillet. T'sais, je veux dire, est-ce que ces gens-là sont capables de contrôler ce qui se passe ou on a quelques cas où on peut aller voir, mais il y en a tellement qu'à un moment donné, on ne peut plus nécessairement savoir ce qui se passe avec beaucoup d'animaux qui malheureusement subissent parfois des traitements assez intenses. Là.
Damien, dois-tu, Jordan, la problématique, c'est pas le fait de mettre des règlements ou des lois en place pour pouvoir encadrer le bien-être animal. Ça n'a jamais été ça, l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir les moyens de les faire respecter, puis d'avoir suffisamment de monde pour pouvoir justement faire ces contrôles-là. Et tu l'as dit, dans les municipalités, on a ce qu'on appelle des intervenants municipaux. Moi-même, j'ai fait quelques formations en lien avec l'agressivité pour pouvoir devenir potentiellement un agent municipal, c'est-à-dire être habilité à être mobilisé par quelqu'un parce que son voisin l'a dénoncé, à aller voir cette personne, aller la mobiliser, aller lui dire « il faudrait que tu fasses ça » ou alors on va être obligé de mettre en place des mesures coercitives de rétention de ton animal. Mais malheureusement, malgré tout ça, là, on est toujours en manque de personnel. Donc, ce n'est pas le fait de mettre des règles qui est compliqué. C'est le fait d'avoir une structure pour s'assurer qu'on les applique et surtout qu'on les monitore. Et c'est beaucoup le cas, malheureusement, dans beaucoup d'autres domaines, autres que le domaine canin ou le domaine animalier. Mais c'est ça, c'est comment faire respecter une règle qu'on a décidé d'adopter au niveau du Parlement.
Oh, on commencera pas à envoyer du monde dans les maisons pour fouiller partout. Puis la Gestapo du chien, là, on comprend très bien. Hey Chris, il nous reste encore quelques minutes là matin. Oui. On est un peu plus short dans le temps. On va prendre quelques questions des auditeurs. Jordan, voulais-tu commencer avec ton histoire de ton beau Milo?
Ben oui, je voulais te conter ça, Chris, parce qu'on en a jasé en ouverture d'émission. C'est que, tu sais, moi, j'ai deux garçons, mais mon plus jeune, il y a un an et demi. Puis là, il y a comme un lien de proximité qui s'est créé entre les deux, c'est-à-dire entre mon bébé puis le Golden, parce que l'accès à la bouffe est très facile, dans la mesure où mon petit gars va garrocher sa bouffe par terre, avec aussitôt que la fin du repas arrive, il n'a plus faim, a tendance à tasser ses trucs, et souvent, même si on ne veut pas nécessairement qu'il mange de la bouffe de table, ça tombe par terre, puis dans le temps de le dire, le petit Golden se pointe dans la place, tout va bien, mange ses affaires, pas de problème, mais là... Une fois de temps en temps, il y a des petits comportements que je trouve désagréables, dont ce matin, tu sais, on mangeait, exemple, un petit beigne autour de la table du salon avec les enfants, tout était bien correct. Puis là, on a donné un petit morceau de beigne à mon plus jeune. Puis au moment où il est parti pour venir se le mettre dans la bouche, il le prenait dans ses mains, le tâtait un peu. Le Golden est venu, il volait littéralement le morceau. Fait que ça, ce côté-là, ça vient me chercher un peu. Puis même que le bébé a comme réagi, tu voyais qu'il avait peur un peu du chien suite à ça, là.
Exact. Ça, le problème de ton Golden, c'est qu'il ne fait pas la distinction entre c'est bien ou c'est pas bien. C'est le bien et le mal. Hein. Pour un chien, il ne connaît pas trop le concept. Hein. C'est définitivement humain, ça, pour ça. Donc, ce qu'il vient nous chercher n'est pas nécessairement pour lui une cause de... Lui, il voit juste que depuis un bout, là, il a l'opportunité de pouvoir avoir accès à de la ressource et puis de la nourriture à proximité de ton petit gars qui en lâche, qui en perd. Donc, c'est une place... on va dire, très valorisé par ton chien et dans lequel il va développer justement aussi une vraie acuité à voir tout ce qui se passe autour. Et c'est sûr que quand tu sors des éléments un petit peu plus, un peu plus exceptionnels, comme tout ce qui est sucré, par exemple, comme les beignes, par exemple, c'est sûr que ton chien, lui, va être toujours très, très à l'affût. Alors, comment ça se gère, ça? Moi, la première chose que je dis toujours, c'est que normalement, un chien, de toute manière, n'a rien à faire autour d'une table à manger d'humain.
Non, absolument. Il n'y a pas d'affaire là.
Jamais. Il n'a rien à faire là. Ça veut dire que lorsqu'on fait de quoi par rapport à ce que, quand nous, on mange, par exemple, puis même si on a un petit loup qui est amené à échapper de temps en temps de la nourriture à terre ou quoi, on doit toujours s'assurer que notre chien soit à une autre place.
Ouais, mais c'est parce que, Chris, c'est le fun de pas avoir à ramasser tout ce qui tombe à terre quand le clébard, il ramasse ça, là, tu sais.
Ah, non, mais là, après, ah, bah, oui, mais c'est toujours pareil. On veut toujours les bons côtés, on veut jamais le revers de la médaille, nous autres, là. Nous, on veut toujours juste à côté de la médaille, puis l'autre, s'il est pas beau, on laisse faire, là. Mais non, on peut malheureusement pas fonctionner comme ça. Il va falloir, effectivement, comme je vous dis, le chien, c'est pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Le chien, on lui met des règles et on lui met en moyen après de pouvoir les appliquer et les respecter. Et à partir de là, c'est sûr que ce qu'on va vouloir faire, c'est créer des rituels qui vont donner le sentiment au chien que ben, ça, dans ma logique de fonctionnement, c'est comme ça que ça marche. Être à côté d'une place où un humain peut être amené à échapper de la nourriture, volontairement ou involontairement, on s'entend, parce que ça arrive très souvent qu'on a aussi des humains qui donnent à manger un reste de fromage à leur chien à table. C'est la pire chose à faire. C'est en aucun cas, un chien ne viendra se mettre à notre table pour pouvoir accéder à de la nourriture ou à des ressources. Donc, il faut que nous, par contre, quand on accède à ces ressources-là, que nous, on mange, il faut que lui ait accès à sa propre place, mais qu'il ait accès lui-même à sa propre nourriture aussi à ce moment-là. Moi, ce que je fais très souvent, c'est que les chiens... Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, moi, si je me donne à manger à mon chien, là, écoute, puis... Nous, on n'a pas le temps de manger, là. Tu lui mets son bol de nourriture, là, en même pas 3 secondes, c'est mangé. Après, il va se repointer autour de la table. Ben, il faut trouver un moyen de pouvoir lui donner accès à sa nourriture qui va lui permettre de devoir travailler. Vous savez, moi, comme je dis très souvent, le soir, là, mes chiens, c'est un Kong avec de la nourriture congelée qui est dedans. Oh, oui. Ils sont obligés de toffer pendant au moins 3 quarts d'heure. Puis en plus, il y a certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais mon chien, au bout d'un moment, il se perd, il n'a plus le goût et puis il va laisser tomber, puis il va attendre que ça ramollisse, puis il va y retourner quand ça sera ramolli, ou ça sera de même, ou ça sera de quoi. » Dans ces cas-là, ça veut dire que la nourriture que tu mets dans ton Kong n'est pas assez appétitif. Il n'a pas assez le goût. Donc, rajoute-y peut-être un petit peu de fromage dedans. Ou quand tu vas faire ramollir ta nourriture, mets-y un petit peu de sauce au poulet, ou mets-y un petit peu de, je ne sais pas, mets quelque chose qui va faire ton animal va se retrouver... va se retrouver à manger quelque chose qui va être tellement exceptionnel, j'aurais tendance à dire, qu'il va pas vouloir le lâcher. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout donner la possibilité au chien de ne plus avoir le goût de venir tourner autour de nous quand nous, on est en train de manger. Pique tranquillement, pas vite, ça devient un tel rituel, une telle façon de faire. On peut même mettre une limite au sol. Vous pouvez très bien mettre dans votre séjour, un tape au sol qui fait qu'à un certain moment de la journée, le chien ne franchit pas cette place-là. Et quand il reste du bon côté, on le paye. Quand il passe du côté, il y a des sanctions. Quand il passe du bon côté, on le paye. Fait que tout ça, ça se travaille. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est tellement plus facile parfois là, de pouvoir laisser le chien et puis se dire « Bon, ben là, OK, nous, on a fini de manger. On est conscient que c'est un moment où le chien, là, on pourrait lui autoriser à venir autour de la table pour qu'il fasse le ramassage. » Ouais, non, non. Lui, il s'en fout du moment, là. Lui, c'est « J'ai accès ou j'ai pas accès à la table de nourriture des humains? »
Ouais. Hey, Chris, un gros merci d'avoir pris ces minutes-là ce matin pour nous
merci
jaser. On n'aura pas le temps de prendre des questions d'autres auditeurs. Ça aurait été l'auditeur Jordan qui est l'autre bord de la table.
Merci.
Si jamais les gens veulent te contacter là, pour assister à tes ateliers ou whatever là, dans les parcs à chiens ou des conseils ou quoi que ce soit, comment on fait?
Écoute, ils vont juste sur mon compte Facebook, Chris Corée Dubé, c'est mon compte personnel. Ils ont juste à me demander sur ce compte-là et puis je serai amené à pouvoir interagir directement avec eux. Ou on peut se retrouver directement au Centre Humano ou au Parc à Chiens de Saint-Romuald demain à 10h et à 13h tous les samedis.
Excellent, un gros merci Chris.
Merci à vous.
Salut, bonne journée.
Bye.
On est avec vous encore jusqu'à midi. C'est Couture dans le mid, pas de couture. Restez là.
Couture dans le mid. Radio X.